Bonjour.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama en ce jour férié, ce 11 novembre. Alors, on aurait pu faire un Cinérama spécial film de guerre sur la 14-18, sur la guerre 14-18 avec Les Sentiers de la Gloire, avec Capitaine Conan ou La Vie et Rien d'autre ou que sais-je encore. Mais c'est pas le cas du tout, on est d'accord. Hein. Bonjour Martin, bonjour Boris.
Bonjour.
Bonjour.
Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui si on ne parle pas de la guerre?
On parle de rien aujourd'hui. Voilà.
Alors on aurait pu faire un Cinérama spécial Martin également, c'est la Saint-Martin, l'armistice on s'en fout, mais c'est surtout ma fête. Donc aujourd'hui on va vous parler de Martin Scorsese, du retour de Martin Guerre, etc.
De Martin le film aussi.
Voilà, du film de Romero, Martin. Non, pas du tout. Donc pour ma part aujourd'hui je vais vous parler du dernier film avec Bruce Willis, donc Clone de Jonathan Mostow, et je vous parlerai également des événements en fin d'émission.
Donc bonjour à tous, donc je me répète, moi pour ma part eh bien je vais annoncer le festival de Bayargues, donc c'est le festival Anima Sud, 24e édition, qui démarrait eh bien le 8, donc le 8 c'était dimanche il me semble, et qui va donc durer tout le mois de novembre jusqu'au 25 novembre, donc ça va être une programmation assez étoffée que vous allez pouvoir découvrir, alors non seulement bien sûr à Bayargues même sur deux salles, mais également donc à Montpellier. Donc Montpellier, il va y avoir le Comédie où vous allez pouvoir découvrir ces films, la salle Rabelais, le cinéma Diagonal également pour quelques événements. Donc cette présentation de ce festival va se faire le biais par une interview de Pierre Azuelos qui est le fondateur de ce festival et qu'on va avoir par téléphone d'ici une petite vingtaine de minutes. Et d'autre part, je vais vous parler aussi d'Alex de la Iglesia. On avait fait une spéciale cinéma et renouveau du cinéma fantastique espagnol la semaine dernière. Où il était aussi question d'aborder, Alex de la Iglesia par le biais d'une nuit en enfer qui avait été proposée dans le cadre de la dernière édition du Cinémed. Et il y avait une conférence de presse, j'y ai assisté. On en parlera un petit peu donc avec du son, voilà.
Merci Boris, et puis moi je vous parlerai d'À l'origine, parce que c'était le cas aussi la semaine dernière, j'avais pas pu complètement dérouler toute l'interview que j'avais eue avec Xavier Giannoli, le réalisateur, et puis Emmanuel De Vos, un des personnages de ce film À l'origine qui sort aujourd'hui. Je continuerai à vous faire écouter ce que dit le réalisateur sur son film, avec des propos plutôt intéressants, et puis sinon on va commencer avec Les Herbes Folles, le dernier film d'Alain Resnais. Alors pour son dernier film, Alain Resnais, à l'image des Herbes Folles qui poussent en tous sens, a bousculé les habitudes de la distribution. Alors on va d'abord parler de la bande-annonce ou des bandes-annonces qui font apparaître Édouard Baird. Alors Édouard Baird qui participe au film en tant que narrateur et donc qu'on ne voit pas à l'image. Alain Resnais le réintroduit dans la bande-annonce, il tente péniblement de faire la promotion du film, une petite coquetterie de Resnais qui nous livre un film facétieux. Et on écoute, pour se détendre, une partie de la bande-annonce.
Vous voyez, il s'agit de dépasser la notion producteur-consommateur, de dépasser la notion de nourriture comme étant l'émanation simple de la nature.
D'accord, et donc les herbes folles. En fait, on est dans la bande-annonce du film Les Herbes Folles, le film d'Alain Resnais. Avec Zéma et du soli, on va en parler.
Les herbes folles, bien sûr, mais point seulement. Les légumineux également.
Non. Les herbes folles, le film, parlons du film, c'est une bande-annonce.
Oui, bien sûr. Je vais y venir. À la notion des suettes de cuisinier, de chef de cuisine, je préfère celle d'éveilleur de goût.
Ne me dites pas je vais y venir, vous m'avez menti, vous dites je vais y venir, vous n'y venez pas, vous ne parlez pas du tout du film d'Alain Resnais, Les Herbes Folles, là.
Allez, je vous ai menti.
Et pourquoi?
J'aime faire du mal.
La vache. Allez voir le film Les Herbes Folles d'Alain Resnais. Faites ça.
Deux fois. J'irai le voir deux fois. Avec mes enfants.
Quels enfants? Ah oui, j'en ai pas.
Voilà, c'était pour se détendre. Hein. Donc c'était une des trois bandes-annonces que vous pouvez voir sur le web. Et puis donc, après cette bande-annonce un peu particulière, il y a l'affiche réalisée par le dessinateur Blutch. Blutch, on le précise, grand ami de Manuel Plaza, animateur à Divergence. Et Blutch qui sera d'ailleurs président du Festival d'Angoulême 2010. Et Manu d'ailleurs stresse en ce moment parce qu'il doit faire la bande-son de l'expo du dessinateur.
Mais j'en profite, parce qu'il y a d'ailleurs un rapport de famille entre Manuel Plaza.
Plaza.
Et Paco Plaza, le réalisateur espagnol, non, à l'honneur notamment la semaine dernière. Donc...
Absolument pas, et je crois que Manu le déplore, mais d'accord. Voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, une affiche d'Ige dessinée avec deux personnages dans un champ, une femme, Mademoiselle Muir, de dos, avec un long manteau bleu et coiffure ébouriffée et teintée de rouge, et puis un homme qui tient un livre à la main et qui a une tête en forme d'herbe qui pousse en tous sens, et oui, des herbes folles. Alors, l'affiche n'est pas une image prise dans une séquence du film, mais elle annonce le ton du film, un film fantaisiste tourné entre décors naturels, survitaminés et décors qui semblent empruntés au studio. Une vraie ambiance qui nous annonce que ce n'est pas la vraie vie, non, c'est une histoire romanesque, une folie de cinéma. On vous demande d'adhérer, de vous laisser aller à ce monde avec un duo de flics, un autre de dentiste et un couple. Une histoire déjà racontée dans un livre par Christian Gailly. Ce livre, c'est l'incident, mais diable lequel ? Tout part d'un vol. Mademoiselle Muir veut une paire de chaussures. Le narrateur nous raconte tout cela sans vraiment d'assurance, avec des hésitations. Et il tente quelques bons mots en toute décontraction, notamment en prenant son pied. La vendeuse lui donnait un vague plaisir. Mais Mademoiselle Muir, Sabine Azéma, la tignasse rougeoyante, bien contente de son achat, se fait voler son sac. Si son sac disparaît vraiment, le portefeuille, lui, est retrouvé par Georges Palais, interprété par André Dussolier. Et puis, vous savez comment ça se passe. On regarde les papiers d'identité, on juge la photo, on cherche d'autres papiers et on trouve un livret de pilote d'avion, pas banal, ça non. Alors, ramener le portefeuille chez Mademoiselle Muir, bien oui, sûrement, c'est envisageable, il y pense, mais finalement, se rend au commissariat.
Et voilà.
Vous l'avez trouvé où ?
Où ? Dans le parking du centre commercial.
Y a de l'argent dedans ?
Non. Non, sur cette photo-là, je dois avouer... Mais sur l'autre, regardez ça.
Ah, parce qu'il y a ça aussi ?
Tenez, regardez.
Ah oh, ouais, si on veut.
On dirait Hélène Boucher.
Qui ça ?
Une aviatrice des années 30... Paris-Saïgon en solitaire, 7 records mondiaux en as de la voltige. Mortellement blessé au cours d'un vol d'entraînement.
Vous en connaissez un rayon ?
J'ai lu ça quand j'étais môme.
Et vous avez sans doute reconnu Mathieu Amalric qui joue un des policiers. Un des deux policiers. Alors, on pourrait en rester là dans cette affaire, hein, le portefeuille mais, est rendu, mais ça ne se passe pas comme ça dans la vie, non. Car Georges a un imaginaire débordant, lui qui est en couple depuis 25 ans, est dévoué aux tâches ménagères. Alors, c'est le barbecue, c'est la peinture de la maison. Eh bien, lui, il sent confusément que cette Mademoiselle Muir pourrait être une occasion dont il ne sait quoi d'ailleurs. Il faudrait qu'il la rencontre, ce qu'elle ne veut pas et qu'il déçoit beaucoup. Alors là, le film s'emballe vraiment, il nous emmène dans une sorte de faux vaudeville où le quotidien, le conventionnel, un portefeuille qu'on rapporte gentiment au commissariat, si l'on veut, devient un prétexte à une folie. On passe par des couvages, des vols planés en avion, des fuis-moi, je te suis, des détails sur les exploits d'Hélène Boucher, l'aviatrice des années 30, hein, dont on a déjà entendu parler, et puis du récit d'un vieux film de cinéma, limite nanar, vu dans une salle improbable. Oui, parce que la lumière et les décors dans ce film sont vaguement irréalistes. On a là un commissariat de sitcom, un vieux cinéma des années 60, un cabinet de dentiste épuré, où Mademoiselle Muir, l'aviatrice, est une dentiste un peu sado. Alors sans doute que le film, à la manière des films de Terry Gilliam, pourrait se revoir quelques années après, sans que cela apparaisse kitsch. J'ai lu qu'on comparait cette ambiance à du Wong Kar-wai. Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'il ne faut pas exagérer. Ici, les couleurs sont bien trop vives, la luminosité trop présente pour la comparer à l'esthétique du réalisateur de Chungking Express ou In the Mood for Love. Alors ce film, en revanche, est un film surréaliste adapté d'un roman qui prend déjà ses aises avec la forme classique. Alors selon l'auteur du roman, René n'en a pas fait une adaptation, mais vraiment une œuvre de cinéma. Oui, sans doute. on est mené en bateau par un narrateur qui se veut omniscient mais qui manque quelques précisions, hésitant un peu sur la marche à suivre. Alors forcément, tout est romancé, ce sont deux personnages qui pourraient peut-être se dire plein de choses, les vivre pourquoi pas, et qui saisissent un incident pour se refuser, se rencontrer, s'opposer, et peut-être s'embrasser sur un générique de la 20th Century Fox. Les Herbes Folles, c'est une pure invention, une création, une histoire d'abord simple, et qui par la ténacité de ces personnages nous rend compte de tous les possibles. Et la rencontre ne serait-ce pas, comme on le voit à plusieurs reprises, une herbe qui s'extirpe du béton, essolée, mais vaillante. C'est un très bon René, plus qu'un exercice de style, une vraie fabrique d'images et de sensations, pour un résultat qui vaut autre chose qu'un divertissement. Et une fois le générique tombé, certes, on se demande de bien ce qu'on a vu, mais on emporte aussi quelque chose qui regarde l'enfance et tous les possibles qu'on s'imagine, les histoires qu'on s'invente tant qu'on peut. Pour un cinéaste qui a plus de 80 ans, moi je trouve que c'est un film optimiste et heureux, et je trouve ça tant mieux. Voilà, donc je recommande Les Herbes Folles, le dernier, peut-être, enfin j'espère pas, hein. En tout cas, c'est le dernier film de Anna René.
Qui a pris d'ailleurs un prix spécial
à Cannes, oui.
À Cannes, voilà, pour en fait
l'ensemble voilà. De son œuvre, je pense. Oui. Voilà.
Mais je suis assez d'accord avec toi. C'est un... Donc moi aussi, je l'ai vu. C'est vraiment un bon film. Alors, ce qu'il y a, moi je trouve, ce qu'il y a de très fort, c'est effectivement de distiller dès le début quelque chose qui est de l'ordre un peu de l'enquête, du mystère. Par exemple, le personnage de Sabine Azéma, on voit jamais son visage pendant début, toute non. cette introduction qui nous amène à la rencontre finalement entre, enfin la rencontre interposée par le biais de ce portefeuille entre Dussolier et elle quoi. Donc ça c'est quelque chose que je trouve assez bien rendu. Ce qui est aussi assez excellent, c'est le personnage de Dussolier qui apparaît un peu comme, bon c'est quelqu'un qui très clairement par le biais de cette aventure sort d'un quotidien et c'est quelque chose auquel il aspirait, ça se sent, il a besoin voilà d'excitation. Mais parallèlement, on a du mal un peu à cerner sa personnalité si c'est un monsieur.
Il a des pulsions meurtrières.
Voilà, en fait, il y a quelque chose de plus sombre en lui. Et finalement, voilà, donc toute cette première heure est vraiment très très forte. Et vraiment, on se laisse emporter sans aucun problème. Par contre, voilà, c'est ça un peu moi, le petit bémol que j'ai trouvé avec ce film, c'est que passé cette première heure, où finalement les choses sont posées, révélées. Voilà, ça devient un peu plus classique et du coup, bah toute la grosse originalité, tout le côté un peu haletant de ce film, bah a tendance un petit peu à diminuer. Alors ça gâche pas pour autant le plaisir parce que mine de rien, c'est quand même bien maîtrisé et voilà, le film se suit jusqu'à la fin sans s'ennuyer.
On précise même, je l'ai pas trop dit, mais c'est plutôt sur le ton de la comédie. Hein, c'est pas du tout un film sérieux.
Oui, notamment avec cette présence d'Edouard Baer en personnage, en narrateur. Fait des petites facéties, pendant le moment où il a la parole, quoi, parce qu'après, effectivement, même lui, son rôle
a tendance à s'effacer. Voilà, effectivement. Et après, effectivement, la dernière demi-heure, c'est là, on rentre dans un vaudeville, un vaudeville qui fonctionne pas avec les mêmes règles que le vaudeville au théâtre, mais voilà, on a le Mademoiselle Muir et puis entre le couple Dussolier et sa femme.
Voilà, donc, oui, moi je le recommande aussi. Il faut aller le voir.
Et donc, ça s'est projeté au Diagonale, forcément. Alors nous passons à Clone, autre univers.
Voilà, on passe à un univers très différent. Alors après deux semaines pendant lesquelles on s'est surtout concentré sur la cinématographie confidentielle et exigeante proposée par le Festimed, il était temps qu'on retourne un peu faire un tour dans nos salles de cinéma habituelles, histoire de se mettre à jour. Alors dès que nous avons réussi à synchroniser nos plannings surchargés, eh bien toute l'équipe de Cinérama s'est précipitée comme un seul homme au Gaumont le plus proche pour découvrir le dernier film de Bruce Willis.
C'est pas vrai.
Mais si, tu étais là, Boris, hein. J'ai des photos. Donc nous sommes allés voir Clone de Jonathan Mostow, dans lequel la star américaine renoue avec la science-fiction après ses rares incursions dans le genre, entre autres avec L'Armée des Douze Singes de Terry Gilliam ou Le Cinquième Élément de Luc Besson. Mais sinon, il n'a pas beaucoup tourné dans des films de SF Bruce Willis. Donc Clone, dont le titre correctement traduit aurait dû être Les Substituts ou Les Avatars, ne parle finalement pas du tout de clonage, mais plutôt de cybernétique. Alors le scénario est adapté d'une bande dessinée américaine et ça devient de plus en plus souvent le cas à Hollywood. Voilà, donc on prend une BD qui marche un peu, qui a des bonnes idées visuelles et on en fait un film. Donc voilà, Clone raconte une histoire qui se déroule dans un futur proche. Alors à cette époque-là, un chercheur parvient à inventer un système qui permet aux hommes de contrôler à distance, par la seule force de leur cerveau, des androïdes qui les remplacent pour les tâches dangereuses. Mais bon, rapidement, l'usage de ces avatars se démocratise jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, 90% de la population possède son propre avatar mécanique. Donc l'humanité se recroqueville à l'intérieur, laisse la surface du globe aux machines et une petite poignée de réfractaires au système. Alors par contre, la criminalité a chuté de 99,999%. Les villes sont maintenant peuplées d'androïdes anthropomorphes, donc tous beaux, jeunes et indestructibles, jusqu'au jour où une agression de deux avatars se solde par la mort de leurs opérateurs. Alors un flic est chargé de l'enquête et après quelques temps, il va s'apercevoir que l'humanité est en danger et il va tout faire pour tenter d'arrêter ça. Voilà, alors en partant de ce postulat, qui aurait pu être particulièrement bien exploité s'il avait été mis entre les mains de cinéastes un peu plus inspirés que Jonathan Mostow, eh bien Claude nous entraîne dans une aventure que les amateurs du genre auront tout le loisir de comparer avec les différentes productions sorties sur les écrans ces dernières années. Donc dans ce film, tout sent un petit peu le réchauffé, de l'esthétique aux péripéties, en passant par les personnages et par leurs motivations. On a droit à une sorte de digest de Minority Report, de iRobot, du récent Ultimate Game et même du propre film de Jonathan Mostow, Terminator 3. Alors une petite parenthèse pour insister sur ce manque assez flagrant d'originalité, c'est assez éloquent de constater qu'en quelques mois, eh bien pas moins de 3 films ont choisi de s'intéresser au sujet de l'Avatar. Donc il y avait Ultimate Game de Taylor et Neveldin, dont je vous avais parlé il y a quelques émissions de ça, qui nous plongeait dans un futur où les jeux vidéo étaient transposés dans la réalité. Il y a donc Clone de Mostow, et enfin il y a le très attendu Avatar de James Cameron qui sortira le 16 décembre prochain. Donc à l'heure où un Américain sur deux possède un compte sur un réseau social du genre Facebook, MySpace, Mythique et compagnie, il est sans doute de bon ton à Hollywood de mettre en abîme ce phénomène social et de pondre des scénarios qui mettent en scène marionnettes virtuelles ou pas, et marionnettistes. Et puis ça permet de surfer sur des thématiques mises à la mode par la trilogie Matrix, des Wachowski, sans trop se casser la tête à créer un univers particulier. Alors bon, je parle pas d'Avatar, hein, de Cameron, qui lui sera un film de space opéra et non pas un film d'anticipation, et qui devrait s'avérer au moins visuellement assez novateur. Mais bon, on retourne au film de Mostow, qui, eh bien, en plus de n'être pas particulièrement original dans son sujet, comme on l'a vu, fait le choix de ne quasiment pas exploiter son postulat de départ. Le film se construit autour d'une enquête policière classique, où va rapidement se dessiner une conspiration économico-politique. Et bon, toute considération métaphysique ou même simplement éthique sur cette évolution de l'humanité qui est mise en scène dans le film, eh bien, ça reste lettre morte pour laisser la place à des considérations basiques sur le deuil, sur l'éloignement dans un couple ou encore sur l'addiction au virtuel. Donc à ce propos, eh bien, ce dernier thème, l'addiction virtuelle, est quand même le sujet d'une des répliques destinées à devenir culte dans l'avenir, avec cette phrase qui dit en substance « Pour éliminer l'addiction, il faut éliminer les drogués ». Voilà, donc Mostow enchaîne les séquences bavardes, où il y a quand même quelques perles de dialogue, comme on a pu voir. Donc des scènes bavardes où l'émotion n'arrive jamais vraiment à poindre et il gâche son potentiel, le potentiel de son postulat. Mais bon, on ne s'attendait pas non plus à assister à un pensum sur les possibilités et les dérives d'un tel prémisse de science-fiction. Alors on va s'intéresser plutôt au côté film d'action de Clone, au fait que ce soit un blockbuster... Et bon, Jonathan Mostow était rodé aux superproductions avec Terminator 3, puis d'autres films, films de sous-marins, entre autres. Et il était un petit peu attendu au tournant donc, par les amateurs de spectaculaire, dont je fais partie. Bon, le bilan est mitigé. Hein, si quelques scènes arrivent tant bien que mal à nous faire trépider, les deux scènes de poursuite au rythme bon, qui est discutable, mais qui sont plutôt pas trop mal filmées. Et puis les scènes finales, qui sont pleines de promesses, mais qui sont symptomatiques d'un budget insuffisant. Donc la plupart du temps, eh bien, on s'ennuie ferme devant les passages qui sont censés donner du crédit à ce monde futuriste. Certains effets sont tout simplement ratés, en particulier les effets numériques. Et les utilisations déviantes des androïdes par leurs opérateurs se limitent à une ou deux injections de drogue électrique, de flirts sans conséquence et autres manucures et pogo sur de la musique de merde. Voilà, donc alors qu'avec un budget moindre, hein, Mark Neveldin et Brian Taylor nous avaient offert dans Ultimate Game certaines scènes d'action vraiment ébouriffantes, ainsi que des illustrations de dérives autrement plus dérangeantes, eh bien Mostow se contente de suivre un cahier des charges sans ambition, et finalement on pêche par un manque d'imagination assez flagrant dans son traitement de l'histoire et de l'action. Donc les quelques bonnes idées de SF doivent provenir directement de la bande dessinée originale. Et d'un point de vue visuel, il n'y a rien qui n'ait déjà été vu en mieux dans d'autres films. Donc la photographie, par exemple, n'est pas non plus à la hauteur. Et si pendant quelques temps, les maquillages prosthétiques et numériques font leur petit effet, on est assez rapidement lassé de suivre des personnages pour la plupart aussi lisses qu'ils sont sans profondeur et dont le surmaquillage gêne le jeu sans l'effacer totalement, alors qu'il aurait été peut-être intéressant de jouer sur une interprétation des attitudes vraiment très mécaniques, vu qu'il s'agit d'avatars mécaniques. Bon, Arnold Schwarzenegger, il y a 25 ans, nous proposait quand même dans Terminator un jeu d'acteur autrement plus intéressant que ce qu'on peut voir aujourd'hui chez des personnages qui sont finalement assez similaires. Donc Clone, voilà, c'est un film, à mon avis, très moyen, qui, bon, même s'il ne sombre pas dans les abysses, arrive malgré tout à gâcher un potentiel certain et affiche une direction artistique indigne d'une production de cette ampleur. Donc reste le plaisir de retrouver cette bonne vieille trogne de Bruce Willis, quelques scènes intéressantes également, ou drôles, et bon, une ou deux séquences d'action pas trop mal torchées, mais bon, ça suffira pas à faire rentrer Mostow au panthéon des grands réalisateurs de SF.
Ben oui, ouais. C'est vrai que j'ai pas grand chose à rajouter, je pense que c'est un film qui est effectivement bridé en tout, voilà. Donc qui est moyen.
Ouais, moyen. Puis après, c'est vrai qu'en plus au niveau de l'histoire, bon voilà, il y a donc c'était une espèce d'enquête policière mais menée par Bruce Willis qui perd un peu de son panache parce que finalement c'est le récit dans sa globalité qui va apporter des solutions aux spectateurs, éclipsant le réel travail d'enquête et le génie supposé de l'enquêteur Bruce Willis. Donc on a des réponses qui sont apportées qui ne sont pas le fruit de l'enquête de Bruce Willis, mais bien le réalisateur qui donne des pistes.
Ouais, il y a des gros raccourcis dans le scénario des ellipses assez flagrantes.
Et ça, c'est dommage quand justement il y a le parti pris de l'enquête qui est pris par le film. Bon, là, c'est dommage de constater ça, que c'est, même ça, c'est pas correctement bien fait, quoi. C'est un peu facilité, quoi, et que du coup, bon, l'intérêt du film, on perd un petit peu, quoi.
Voilà. Sinon, parmi les choses étonnantes, hein, le personnage qui joue la rébellion, parce qu'il y a un rebelle face à ce monde où chacun a son clone et ne vit plus finalement, c'est un gros rasta, voilà. Enfin, ils ont choisi un big rasta.
Vin Rams.
Et sinon, je pense qu'il y a quelques. Ils ont voulu faire un monde effectivement très très futuriste, mais il y a quelques anachronismes qu'on a remarqués avec des téléphones portables qu'on prend encore dans la main. Enfin, ça semble complètement absurde.
Pour une vraie claque de SF, ben on attendra Avatar qui peut-être remplira ses promesses. Ouais. Mais bon, Clone, non, c'est oubliable. Hein.
Donc Avatar d'ailleurs qui apparemment pourrait être vu en version originale au Comédie, qui est en train de s'équiper donc vitesse grand V apparemment. Donc voilà, c'est des sources dont on taira l'origine. Mais voilà, ils sont en train de s'équiper pour justement permettre leur permettre de projeter ce film en 3D.
Au Gaumont Comédie.
Au Gaumont Comédie. Mon Dieu. En numérique.
Parce que nous, on a vu quand même Claude. Moi, je m'attendais à encore un grand écran. Et finalement, c'était un écran pas plus, un tout petit peu plus grand que ton vidéoprojecteur, Boris. Quand même. Je voudrais pas dire, c'est, mais ouais, j'étais un peu déçu.
C'est
quoi.
Mais c'est sûr que les films slovènes du Festimed, on les a vus sur des plus grands écrans. On est plus confortables.
Ouais. C'est clair. On a un invité par téléphone, Boris.
Oui, voilà. Donc, on va appeler de suite Pierre Azuelos, donc, je le répète, fondateur du Festival Anima Sud il y a de ça 24 ans. Alors, Pierre, bonjour.
Bonjour.
Alors donc voilà, vous êtes le fondateur du Festival Anima Sud, donc consacré au cinéma d'animation qui vient tout juste de débuter et qui se déroule sur tout le mois de novembre. Alors parlez-nous un petit peu de l'historique de ce festival qui fête cette année ses 24 ans. Quels étaient le contexte et les enjeux tant culturels qu'économiques à son origine? Parlez-nous un petit peu de ça.
Alors le contexte, c'était que le cinéma d'animation était très 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 mal connu, voire complètement inconnu. Il y avait simplement un Walt Disney de service à la veille des fêtes de Noël, et tous les 3 ou 4 ans, dans le meilleur des cas, sortait un film qui nous changeait un peu du dessin animé traditionnel. Donc, il y avait une vraie nécessité de montrer au public ce que c'était que le cinéma d'animation, d'autant plus que, vous le savez sûrement, ce cinéma fleurit surtout dans les courts-métrages, et que les courts-métrages passent rarement dans les salles. Donc il y a 24 ans, un petit peu de manière un peu inconsciente, hein, on a appelé festival un gros week-end de cinéma à Bayargues dans lequel on avait montré une quarantaine de courts-métrages canadiens. de l'Office national du film du Canada, mais ça suffisait largement pour assouvir la soif du public de l'époque, qui n'était pas encore très grande, quoi, hein. Alors depuis 24 ans, ben ça a bien changé. Alors je reviens un peu en arrière, excusez-moi. L'enjeu culturel, c'était aussi de montrer que c'était pas seulement du cinéma pour les petits-enfants et pour les enfants. C'était aussi un cinéma majeur, adulte, et qui était un vrai outil de communication culturelle, quoi, hein. Voilà, depuis les choses ont changé, vous le savez.
Ça a pris de l'ampleur.
Les gens savent ce que c'est que le cinéma d'animation, alors qu'avant j'étais obligé de chaque fois répéter que c'était pas que le dessin animé, que comment ça se faisait image par image, etc. Il y a eu l'émergence donc d'un nombre important de longs métrages, et maintenant il n'y a pas deux semaines sans que dans les salles de Montpellier comme ailleurs
sortent
des films d'animation.
Oui.
Le contexte est aussi l'évolution technique, hein. On a eu des choses en 2D, puis maintenant en 3D, et aujourd'hui on peut dire que la plupart des films d'animation qui sortent sont en 3D. Je vous renvoie à Coraline, sauf justement quelques artisans têtus et puis poètes qui continuent à faire du cinéma d'animation presque traditionnel. Je dis presque parce qu'ils utilisent quand même les outils modernes, mais comme accessoire, disons, hein, comme aide à la création. J'en veux pour exemple que cette année, d'ailleurs, dans le cadre du festival, passe aussi bien Coraline, qui est un film en 3D tout à fait aujourd'hui classique, que Kerity, qui est un film en 2D assisté, on va dire, c'est-à-dire du dessin tout à fait, qui apparaît comme tout à fait traditionnel, quoi.
Oui, inspiré donc, enfin pas inspiré, non, c'est même Rebecca d'Outremer a donc donné son style, voilà, donc à ce film.
C'est vraiment très graphique, quoi, hein, de Rebecca d'Outremer, pas du tout sur les standards américains du genre des petits animaux qu'on voit dans tous les films qui sortent aujourd'hui, quoi.
Oui, là les personnages sont humains, bon après on va pas trop dévoiler le film, il mérite le visionnage d'ailleurs ce film.
C'est vraiment créé pour le film, quoi. C'est pas la reprise de modèles qui existaient déjà, quoi.
Ouais. Alors là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, là, on parle de programmes comme d'ailleurs toute une partie du festival, donc qui s'intitule Baby Court, destiné à un public assez jeune. Mais le festival donc d'Anima Sud, c'est également, vous le soulignez là juste avant, un festival destiné à rendre une visibilité sur le cinéma d'animation pour adultes. Et cette année, justement, eh bien, il y a la venue. Alors ça, c'est quand même un événement à souligner, du réalisateur donc américain Bill Plimpton. Et donc voilà.
Moi j'ai pensé depuis longtemps, mais je n'osais pas parce que ça paraissait un petit peu gros. Maïté Doligès, la responsable cette année, a osé et elle a bien fait. Bill Plimpton, c'est donc... alors lui, il travaille encore de manière très traditionnelle. Lui,
c'est en 2D.
Couleur, carrément. Hein. Oui. Lui, c'est du dessin au crayon de couleur, filmé image par image. Dans l'esprit de... Moi je pense que c'est dans l'esprit de Tex Avery, bien sûr. Hein,
oui. C'est un cinéma décalé, ce qu'il produit, Bill Plimpton.
Pardon ?
C'est un cinéma, enfin, c'est un genre décalé.
C'est plus décalé, c'est Destroy, diraient les jeunes d'aujourd'hui. Hein.
Ouais.
Mais ses premiers courts-métrages s'appelaient 27 façons de s'arrêter de fumer, 40 façons d'embrasser une femme, enfin, c'était complètement délirant. Et moi, je vous avoue que j'ai longtemps pensé qu'il serait jamais capable de faire des longs-métrages. Parce qu'on imagine mal, par exemple, le Tex Avery faire des longs métrages. Et il a réussi, et réussi très très bien à passer son humour complètement destructeur et dont on pense que ça ne conviendrait pas à un vrai scénario long. Il arrive à les faire passer dans des longs métrages. Et je crois que le public montpelliérain a vraiment la chance de voir pratiquement toute son œuvre, les longs et les courts.
Voilà, c'est ça, c'est un des points très intéressants du festival, à savoir que ça donnera la possibilité de voir les courts-métrages et les longs, donc par exemple voilà. Les Mutants de l'espace, et puis là son dernier, Des Idiots et des Anges, qui viendra donc animer à deux reprises, donc dans le cadre sur le site de Bayargues et également au Diagonal.
Au public de venir aussi, et peut-être même d'abord, voir les courts-métrages, parce qu'il ne les verra pas ailleurs, quoi, il les verra peu ailleurs.
Oui. Alors, donc, hormis ce Bill Plimpton, il y a donc énormément de points forts hein, sur cette 24e édition là, d'Anima Sud. Alors, donc, un de ces aspects, c'est d'avoir fait une place importante à l'ONF, donc l'Office national du film canadien, dont vous parliez tout à l'heure. Alors, quelle place détient cette organisation dans l'histoire et puis le paysage cinématographique d'animation ? Un peu précurseur, il semblerait, non ?
C'est clair. Ça, pendant longtemps, l'ONF a été le pendant en Occident, on va dire, des grosses machines soviétiques et des pays de l'Est. Hein. Vous vous doutez que dans les pays de l'Est, il y avait des gros appareils de cinéma avec des fonctionnaires qui faisaient du cinéma pour enfants, didactique, un peu de propagande, etc. En Occident, bien sûr, il n'y avait pas ça, puisqu'on est dans un système réputé libéral, donc et puis qu'il n'y a pas de moyens, si vous voulez, pour faire un cinéma autre que du cinéma commercial, sauf alors... on ne sait pas trop pourquoi, enfin on pourrait discuter longtemps, sauf au Canada, où l'Office national du film, depuis juste après la guerre, c'est-à-dire en 1945, a créé des sections spéciales d'expérimentation de cinéma. Et c'est là-bas que Norman McLaren, que beaucoup de gens connaissent maintenant, a fait ses armes. C'est là-bas que c'était fait, de ce côté, on va dire, du rideau de fer, tout ce qui a été fait comme expérimentation en animation. Alors, vous dire que ça continue autant aujourd'hui, c'est peut-être pas tout à fait vrai, parce que, bien sûr, toutes sortes de crises économiques passant par là, l'ONF a moins de moyens qu'il n'en a eu dans les années 50-60, mais c'est vrai que ça reste encore un pôle très 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 fort de recherche et d'expérimentation, d'autant plus qu'ils avaient la très bonne idée d'accueillir et d'héberger des artistes du monde entier. Il y a des Hollandais, des Français, des Russes, bien sûr, des Russes transfuges, des Indiens, etc., qui travaillent à l'ONF comme stagiaires. Quoi.
Et puis oui,
et on reçoit donc, pour être tout à fait complet, on reçoit cette année un producteur de l'ONF qui, lui, connaît l'histoire, bien sûr, beaucoup mieux que moi, qui sera là pour présenter les diverses facettes de cet office.
C'est Marc Bertrand, si mes sources sont bonnes.
Pas celui-ci, le week-end suivant. En même temps, hélas, que Plimpton, mais enfin, en un week-end, on peut largement voir tous les deux. Voir les trois, puisqu'on a un troisième invité qui est un jeune producteur français.
Oui.
Alors ça, on y tient aussi, c'est Ron Dienz. Il y a en France quelques... j'ai accueilli Dora Benocilio dans le cadre de Cinemed il y a quelques semaines. Ron Dienz, de son côté... a créé une petite boîte de production qui s'appelle Sacre Bleu et qui est spécialisée dans les courts-métrages et qui n'arrête pas de travailler. Alors c'est extraordinaire, quelqu'un qui arrive à faire vivre une boîte avec des courts-métrages et des courts-métrages exigeants. Enfin, et il nous présente là une sélection de son œuvre.
Voilà, c'est donc aussi une vocation d'AnimaSud, donc d'offrir une visibilité donc de la production française. Alors là, vous parlez de quelque chose qui est plus de l'ordre de la métropole, mais il y a également une production régionale que vous vous évertuez de soutenir, de promouvoir, notamment eh bien La Fabrique, ou alors par exemple aussi Supine Focom. Arles, parlez-nous un petit peu de cela, de cette production régionale. Quel est son rôle par rapport à la production métropolitaine? Est-ce que c'est un pendant? Est-ce que c'est quelque chose qui est expansif?
Il y a deux choses. Hein. Il y a La Fabrique, qui est bon, le studio d'animation qu'on connaît et que j'ai eu le privilège et le redoutable honneur de diriger pendant quelques années, qui vit toujours alors qu'on craignait le pire il y a quelques années, enfin qui s'est transformé, qui s'appelle maintenant La Fabrique Production et qui continue à travailler malgré ce qui est certainement, ça c'est mon point de vue, hein, je ne sais pas si tout le monde le partage, mais ce qui est certainement un handicap, c'est-à-dire l'isolement dans un tout petit village du Gard qui s'appelle Saint-Laurent-le-Minier, qui est un lieu absolument charmant et incroyable pour passer des vacances. Mais c'est vrai que pour travailler au quotidien, c'est plus problématique. D'autant plus qu'alors aujourd'hui, La Fabrique, le format, si vous voulez, le gabarit du studio convient moins bien aux nouvelles formes de travail. On travaille beaucoup aujourd'hui par télé, à distance, quoi. Hein. Même les dessinateurs travaillent chez eux. La Fabrique avait été conçue pour rassembler une grosse équipe. Ils ont été jusqu'à 40, hein, pour rassembler une grosse équipe qui allait travailler sur place. Bon, aujourd'hui c'est un peu plus problématique, mais ça fonctionne toujours, on s'en réjouit beaucoup, et ils ont beaucoup travaillé. Ils ont été en grande partie les réalisateurs du film qui s'appelle donc Kerity, qui sort en avant-première, donc je crois qu'il y a une projection cet après-midi, hein, j'ai pas le calendrier par cœur. Oui, il y a une projection cet après-midi.
Ça.
Et il y aura une ou deux autres présentations en avant-première dans d'autres villes du département. Ça, c'est La Fabrique. L'autre caractéristique de la... Alors bon, par rapport à sa place, si vous voulez, pour l'ensemble du pays, disons que des fabriques, il y en a trois ou quatre. Hein. Il y a l'équivalent dans le Nord... Il y y a l'équivalent du côté de Bordeaux, il y a Folle Image à Valence, qui est sensiblement plus important, puisqu'ils ont annexé, eu un centre de formation, etc. Et pour revenir alors à Montpellier, à la place de Montpellier dans le paysage cinéma, ce qui caractérise Montpellier, c'est une grosse activité de formation. Oui. Alors formation, c'est beaucoup la 3D, hein, c'est l'ESMA,
Artefix,
c'est 3D, c'est le Artefix, c'est etc. Même l'atelier à Agnan, qui est un nouveau centre de formation. Et on essaie de, bon alors pas tous chaque année, on essaie de montrer un peu au public ce que font ces gens-là.
D'accord, très bien. Alors, écoutez, il y a aussi un point hein, qui est quand même assez important là du programme, c'est donc un. Parce que voilà, il y a clairement en fait une volonté de s'intéresser au festival, enfin non, au cinéma nord-américain. Bon, il y a tout un pan aussi du festival consacré à Cuba, par exemple. Mais il y a aussi quelque chose donc qui est présent dans ce programme, c'est donc le petit festival Japanime qui s'inscrit un petit peu en complément de l'ensemble du cinéma, enfin du festival Anima Sud. Alors cette nuit, ce type de cinéma va être présenté au public sous forme bien de carte blanche aux éditions CAS, donc très connue en termes de distribution et de production d'animés japonais durant des soirées, des nuits. Voilà. Donc, quel est en fait le sens de cette programmation? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler?
Alors, le sens, il est double. Depuis toujours, hein. Le festival essaye d'avoir à la fois donc une programmation très grand public, et là je crois que cette année Maïté a fait un effort particulier en direction des adolescents, qui sont toujours le public qu'on a le plus de mal à avoir, mais qui sont très sensibles à tout ce qui est adaptation de manga, etc. Hein, et je crois qu'il y a eu déjà dimanche, un programme important autour des mangas japonais, et en même temps public très spécialisé. Hein, les gens qui vont venir voir les films de Ron Dien sont des gens très curieux qui savent qu'ils ne les verront pas ailleurs, etc. Voilà, donc un double objectif, si vous voulez. Hein, grand public et public spécialisé, parce qu'on ne va pas faire 14 festivals quand même différents dans la région. Et l'autre objectif étant d'être dans Bayargues et hors Bayargues. À la fois à Montpellier, à la fois à Palavas, à la fois à Clermont-l'Hérault, à la fois dans des villages du Gard et de l'Hérault, et aussi bien sûr dans Bayargues, notre petite salle un peu fétiche maintenant, qui est la salle Claude Plan,
oui.
Dans laquelle le public nous dit qu'il a beaucoup de plaisir à revenir. Ça c'est intéressant parce que c'est une salle qui est honorable, hein, mais qui commence à avoir une mémoire, si vous voulez. Il y a sur les murs les traces des anciennes affiches, etc.
D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cet éclairage donc sur ce festival. Donc, je le rappelle, qui va durer jusqu'au 25 novembre et donc qui a aussi un caractère nomade. Hein, donc, ça, je l'évoquais en début d'interview, c'est-à-dire que vous l'avez encore souligné, il va se passer dans différentes salles de Montpellier. Alors et de Bayargues principalement. Vous pouvez donc vous renseigner sur le site internet concernant les horaires. De ces différents programmes, donc qui s'appelle festivalbayard.fr, et de manière donc à pouvoir profiter pleinement de ce festival qui comporte beaucoup d'éléments cette année encore. Pierre Azuelos, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis donc voilà, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était la partie actu de Cinérama. On reviendra aussi sur les événements en toute fin d'émission, mais on va reparler de À l'origine, parce que si vous avez écouté l'émission la semaine dernière, eh bien, j'avais déjà commencé à passer des extraits de l'interview du réalisateur Xavier Giannoli, donc qui sort aujourd'hui son film sur les écrans À l'origine, avec François Cluzet et Emmanuel Devos. Alors c'est un film qui part d'un fait divers, Philippe Baird, un escroc, qui reconstruit une autoroute à l'abandon, une autoroute abandonnée à cause d'insectes. Les écologistes s'en sont mêlés de ce chantier, il est arrêté, l'escroc arrive et lui il se dit tiens, il y a la maille à se faire, et il va réussir à construire donc 2 km d'autoroute. Ça c'est le fait divers. Et le juge d'instruction Laurent Le Guévac, qui enquêtait sur cet homme, va aider le réalisateur Xavier Jannoli à entrer en contact avec Philippe Bert. Mais pour le réalisateur, il était important de fictionner l'histoire, ne pas rester dans l'exposition des faits, ce qui aurait sûrement donné un documentaire. Et d'ailleurs, un réalisateur avait prévu de faire une enquête sur ce fait divers. Donc à l'origine, et autre chose qu'un documentaire sur un escroc, le réalisateur s'est retrouvé plongé dans le mimétisme en embarquant l'équipe dans une aventure comparable à celle du personnage, avec un véritable chantier d'autoroute, alors déplacé de la Sarthe, où initialement se déroulait le fait divers, dans les plaines du Nord. Il revient sur le dépassement du fait divers et explique le titre et parle du personnage. On écoute Xavier Jannoli.
Pourquoi j'ai choisi ce titre? C'est pour dépasser l'anecdote, pour aller dire, je vais vous parler de l'origine de ce fait divers dans ce qu'il a de plus fort sur les émotions, sur la vie de cet homme, et ce que ça exprime, à mon avis, d'intemporel et d'universel. Donc moi, je voulais surtout pas me limiter seulement au fait divers. Je voulais le raconter avec énormément de précision. J'espère que ça se sent pendant le film, en étant nourri par tout un tas de détails très concrets. Et en même temps, j'avais le désir d'emporter tout ça et lui donner une autre dimension, quoi. Voilà. Un homme qui arrive face à des choses importantes, quoi, de la responsabilité, le souci des autres, qui va échapper à la solitude, à l'individualisme. Et qui vit une histoire d'amour dans le film avec une femme qui va lever les yeux sur les gens qui l'entourent et qui va échapper à une vie pourrie, quoi, individualiste, égoïste, matérialiste, obsédée par le pognon, et qui d'un coup va chercher du sens à ce que peut être la vie, quoi, à l'amour, à la qualité des sentiments. Oui, il y a cette idée de la responsabilité de cet homme qui d'un coup dans l'histoire, au début c'est un salopard qui ment, il vit pour lui, il se fout des autres. Il se dit, faut être malin, il faut sauver sa peau, s'en sortir. Et il est prêt à faire n'importe quelle saloperie, petite escroquerie. Bon. Et puis d'un coup, il va rencontrer des gens qui vont le mettre en face de lui-même.
Alors pour le choix des acteurs, eh bien Xavier Jannoli, je l'ai dit, a rencontré Philippe Bert en prison, Philippe Meyer dans le film. Et donc pour lui, eh bien c'était François Cluzet qui devait crever l'écran.
Très important, quand je rencontre Philippe Bert en prison, la première chose qui me marque, c'est son regard. C'est quelque chose dans l'œil de comment caractériser ça, d'un mystère, d'un décalage, d'une étrangeté. Un regard très fort, très singulier.
C'est beaucoup d'acuité.
Et en même temps, on voyait bien qu'il vous écoutait.
Voilà,
et
l'œil qui écoute.
Voilà, l'œil qui écoute. C'est exactement ça. Et j'ai un souvenir très fort de son regard en prison. Et donc, quand je pensais aux acteurs, j'ai regardé. La première chose que je regardais, c'était ça, c'était le regard, qui m'intéressait beaucoup plus que le physique. Le regard était important dans le film. Et du coup, bah, celui où je sentis qu'il y avait ce trouble, ce vertige, cette étrangeté, cette force, ce gouffre, je ne sais pas comment dire, c'était Cluzet, quoi. Donc je suis allé le voir, il a fait le film tout de suite, voilà, sans...
Voilà, bah, tant mieux, hein, parce que le film s'est fait. Et donc on passe au choix de l'actrice avec... Emmanuelle De Vos.
Ce qui m'intéressait, c'était le regard d'Emmanuelle, cette fixité, cette honnêteté dans les yeux, cette attention, cette lumière qu'elle a. Et en face d'elle, cet homme qui a un regard noir, fuyant. Je lui demandais sans arrêt, pour toute la première partie du film, d'être incapable de tenir le regard. Je lui disais, si les gens te regardent trop longtemps, ils vont pouvoir te démasquer. Donc comme c'est un homme qui est en permanence... ça justifiait beaucoup des déplacements tout le temps. Qui trouve des raisons quand il parle. S'il était à ma place là, il serait levé pour aller prendre un café, comme ça il réfléchit, comme ça il se dit comment je vais m'en sortir, qu'est-ce que je vais inventer. Donc il y avait une tension entre Emmanuelle et lui. Et surtout qu'Emmanuelle, je lui avais dit, il faut qu'on sente que pour cette femme, les sentiments, l'amour, c'est quelque chose qu'elle respecte et c'est quelque chose qui est important.
Et voilà, hein, même quand on lui pose une question sur le personnage féminin, il revient inlassablement sur le personnage masculin avec ce regard fuyant. Alors, eh bien, il y avait aussi Emmanuelle De Vos, hein, donc l'actrice qui était aux côtés de Xavier Jannoli, c'était au cinéma dont on les a rencontrés il y a 15 jours. Et donc, eh bien, je lui ai demandé pourquoi elle a accepté le rôle et comment elle l'a préparé.
Moi, ce qui m'intéressait, c'était le scénario. Vraiment, le scénario était très fort. Après, je pense que la première rencontre... Il m'a dit, voilà, je me suis inspirée d'un fait divers. Il y avait vraiment une mère, la mère de cette ville dans la Sarthe. Mais j'ai très vite oublié, parce que ça n'avait pas vraiment d'intérêt de se renseigner sur elle. Parce que d'abord, dans le scénario, le personnage était déjà vraiment bien construit. Donc vous pouvez faire ça si vous jouez voilà, Edith Piaf ou Jacques Lamontagne, un personnage connu. Mais là, d'abord, ça n'a, le personnage réel n'a rien à voir. Elle n'est pas veuve. Elle, enfin, effectivement, elle dit qu'elle a absolument rien eu avec cet homme. Que voilà. Mais bon, à premier, vraiment, je ne m'en suis pas du tout occupée pendant le film. C'est en faisant la promo que je découvre, puisqu'on fait la promo avec le juge d'instruction. Mais tout... Voilà, et Xavier a été présenté le film, enfin il vous en parlera, mais au Mans, donc où s'est déroulée cette vraie histoire, et qui paraît que c'était très émouvant, parce que les gens levaient la main à la fin de la projection en disant « Monica, c'est moi
ouais, ».
C'est voilà, ils ont été rencontrés la mère, qui était très fâchée, donc ils ont été la voir, lui ont expliqué, mais vous savez, c'est du cinéma, on s'inspire d'un fait réel, mais après on ne fait pas du copier-coller, enfin ça n'a aucun intérêt, sinon on ferait des documentaires, et voilà. Coup de bol, j'ai un ami qui est maire d'une commune dans le Morvan. Et voilà, donc je me suis incrustée à des conseils municipaux. Et j'ai ma belle-mère, la femme de mon père, qui était journaliste au Midi Libre et qui est très, très dans les associations, qui a une vie comme ça, très, très tournée vers les autres et tout. Donc je me suis inspirée d'elle aussi, enfin, un petit mélange avec ces deux personnes.
Alors Emmanuel Devos a très peu parlé hein, d'ailleurs du film parce que bon, c'était une conférence de presse, il y avait beaucoup de journalistes qui l'ont questionné plutôt sur son rapport au cinéma en général. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai pu isoler de cette interview, si ce n'est que bon, elle expliquait aussi que si elle avait travaillé avec Jane Holly, c'est parce que c'était un vrai cinéaste. Et on va revenir, on va terminer avec justement Xavier Jane Holly, où il nous parle des camions comme des sentiments, puisque bon, c'est vrai que dans le cinéma, on a rarement montré des camions de chantier, et lui, ben, lui le film, c'était quand même des camions de chantier d'autoroute. Donc voilà, comment il s'en est sorti avec tout ça, on l'écoute.
Avant le tournage, je me suis dit quelque chose de très simple. Je ne vais pas filmer des camions, je vais filmer des sentiments. Et quand il y aura des camions, les camions seront des sentiments. Moi, ça ne m'intéresse pas. Le côté scène de chantier, En enquêtant dessus, j'ai vu à quel point c'était féerique et impressionnant et que ça pouvait être un spectacle de cinéma étonnant et pas beaucoup filmé. Quand je pensais à ça, en fait, je voulais pas m'arrêter à ce que je filmais, je voulais que ça exprime quelque chose de l'intériorité des personnages. C'est pour ça que j'ai adoré ce titre dans un journal belge qui a titré sur le film « Raging Bulldozer ». En hommage à « Raging Bull » de Martin Scorsese. Voilà, c'était quand il y avait les scènes de chantier... Il y avait un désir de moi de les rendre féeriques, jusqu'aux scènes de nuit qui sont carrément néo-félinienne, quoi. Voilà, et un truc d'enfance que j'ai toujours pas compris, c'est pourquoi est-ce que les enfants veulent jouer avec des camions et des pelleteuses. J'ai jamais compris.
Eh bien, figurez-vous que je suis reparti de cette conférence de presse avec cette même interrogation, puisque moi aussi j'adorais ça, j'en avais même un téléguidé. Voilà, un tractopelle. Bon, on n'a pas le temps de parler de Da Iglesia. Alors, j'en termine quand même pour dire qu'à l'origine, eh bien, sort aujourd'hui. Donc, il est projeté au cinéma Diagonal. En revanche, oui, on n'a pas le temps de faire le petit topo sur Alex de la Iglesia, mais ce n'est pas grave parce que c'est intemporel.
Tout à fait.
Voilà, Boris. Voilà. Puisque
tu as deux semaines, je pense, on verra.
Tu as été large sur Anima Sud, mais c'est bien parce que c'est
aussi parce que c'est. Voilà, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc bon, c'est vrai.
Elles ont été dites, je pense. Et donc, on passe bien finalement aux événements parce qu'il y en a énormément en tous sens. Il y a plein de concerts et le cinéma s'y met aussi à faire plein de choses tous les jours.
Tout à fait. En fait, alors, outre le festival Anima Sud, dont vous pouvez trouver le programme détaillé sur le site festivalbayard.fr, et donc vous avez une avant-première de Kerity à 15h, dépêchez-vous, voilà, c'est à 15h au multiplex, Kerity, donc la maison des rêves, des contes, au multiplex à 15h en présence de Rebecca D'Outremer, et peut-être du réalisateur également. Mais bon, donc outre le festival Anima Sud, vous avez intérêt à vous bouger cette semaine si vous ne voulez pas rater toutes les séances spéciales, les rencontres rétrospectives et avant-premières que nous proposent les cinémas de Montpellier. Donc bondissez sur votre PDA de chez Sony, votre agenda Filofax ou attrapez la dernière déclaration d'impôt qui traîne et notez-y avec application et précision tous ces rendez-vous essentiels à votre bien-être culturel et votre équilibre mental. Alors depuis hier, le festival de films cubains s'est installé au Diagonal et continuera de squatter les écrans jusqu'à samedi. Donc vous aurez la possibilité d'aller découvrir une fois par jour une séance en provenance de Cuba et de vous faire une idée de la cinématographie du pays des cigares et des mojitos. Donc ce soir à 19h50, vous avez Páginas del Diario de Mauricio de... Donc Páginas del Diario de Mauricio de Manuel Pérez. Jeudi à 19h40, vous avez Suite Habana de Fernando Pérez. Vendredi à 17h50, vous avez un programme de court-métrage en provenance de Cuba. Samedi 17h45, vous avez El Beni de Jorge Luis Sanchez. Donc une séance suivie d'un mini-concert. Alors ne me demandez pas ce que c'est qu'un mini-concert. C'est sans doute un concert très court. Ensuite, alors, donc ça c'est le festival du film cubain, c'est au Diagonal de ce soir jusqu'à samedi soir. Jeudi à 20h15 au cinéma Utopia, vous avez une projection du film documentaire Lettre à Anna de Eric Bergkraut, suivi d'un débat avec la journaliste Anne Niva. Donc ce film trace le portrait de la journaliste russe Anna Politkovskaya, qui était assassinée le 6 octobre 2006 pour avoir dévoilé au public les exactions commises par le gouvernement russe. Donc voilà, le documentaire revient un petit peu sur le parcours de cette journaliste. Vendredi à 20h, le Gaumont Multiplex vous propose l'avant-première du nouveau film d'Albert Dupontel, donc Le Vilain, un film qui va sortir prochainement en salle. Je ne saurais que trop vous conseiller d'y aller, puisque les films de Dupontel sont toujours des petits bijoux de comédie noire. Ensuite, dimanche matin à 10h, donc toujours à Utopia, vous pourrez aller grignoter quelques croissants sans OGM et tailler le bout de gras avant et après la projection d'Alix au pays des gènes, donc de Okinawa Guérard, dans lequel la jeune réalisatrice nous propose un regard sur la bio-ingénierie dans le domaine agricole et vous pourrez donc discuter autour de ce sujet de société. Lundi s'ouvre un événement important organisé par les Rencontres du Cours dont nous avions parlé il n'y a pas si longtemps dans Cinérama. Donc les Rencontres du Cours ont décidé de consacrer 2 jours au réalisateur Luc Moulet qui sera sur place à Montpellier. Donc 2 journées qui se tiendront au Diagonal et au Centre Rabelais. Alors lundi soir à 20h, vous pourrez aller découvrir l'avant-première du nouveau film de Luc Moulet, un film qui s'appelle La Terre de Folie, qui sera suivi d'un débat avec le réalisateur ainsi qu'avec une de ses actrices fidèles et co-réalisatrice d'Anatomie d'un rapport, donc un autre film du réalisateur. Ça c'est lundi à 20h. Mardi à 15h, vous avez une conférence en présence du réalisateur, bien sûr, au Centre Rabelais. Et à 20h30, toujours au Centre Rabelais, la projection d'une sélection de courts-métrages. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Luc Moulet, c'est quelqu'un qui a débuté comme critique au Cahier du cinéma en 1956, avant de passer à la réalisation de courts et de longs-métrages décalés qui jouent sur l'absurdité du quotidien. Donc il a été également producteur, scénariste, acteur. Et bon, Luc Moulet est un iconoclaste qui se veut un chantre du non-sens, de la pataphysique et également de la cartographie appliquée à n'importe quel sujet. Donc cartographie de la bouteille de Coca-Cola d'un litre, explorée de façon complètement exhaustive, au terril du nord de la France, en passant par l'univers canin dans la société moderne. Donc voilà, c'est un cinéma. Moi, j'ai vu quelques-uns des courts-métrages qui seront projetés mardi soir à 20h30. Et c'est vrai que c'est un cinéma assez étonnant qui est dans la comédie, vraiment une comédie de l'absurde, entre Tati... Voilà.
C'était le versant de la nouvelle vague qui était le versant drôle.
Voilà.
Peut-être
le seul cinéaste burlesque comique de la nouvelle vague. Donc voilà, ça c'est, je pense, un événement à voir. C'est une cinématographie qui est assez confidentielle. Le dernier film de Luc Moulet était passé une semaine ou deux à peine sur Montpellier. Le Prestige de la mort, ça s'appelait. Donc voilà, ça c'est lundi et mardi, donc les rencontres autour de Luc Moulet. Toujours lundi à 13h40, vous avez également la projection du classique de Mankiewicz, Soudain l'été dernier, ça c'est à 13h40 au Diagonal. Et enfin, mardi à 20h, le Diagonal, en partenariat avec le Festival Alimentaire 2009, vous invite à la projection du film Les Pirates du Vivant de Marie-Monique Robin, qui sera suivi d'un débat sur les dérives du brevetage du vivant. Donc quand je dis le Diagonal vous invite à la projection, non, c'est il vous en coûtera. Il vous en coûtera quand même une place de cinéma. Voilà, Les Pirates du Vivant, c'est mardi à 20h et on en a fini avec ce...
Non, pas tout à fait, parce que moi aussi c'est pareil, je vais en profiter pour annoncer quand même deux événements dans le cadre d'Anima Sud qui valent le coup. Il y a le premier de ces deux-là, c'est vendredi 13 novembre à 20h30, vous avez la nuit Bill Clinton, donc où il sera question de la projection des courts-métrages de Bill Clinton et puis certainement d'un de ses longs, je crois que c'est Mutant en espace, mais à confirmer. Encore une fois, comme le disait Martin tout à l'heure, allez voir sur le site internet du festival. Et puis après, il y a le samedi 14 novembre 20h, il y a la soirée d'ouverture, alors là par contre c'est à Bayargues, donc au niveau de la salle voûtée, que vous pourrez donc assister à cette soirée d'ouverture. Voilà, c'est des deux événements, à mon avis, à ne pas rater cette semaine. Après, il y en a d'autres, hein, comme par exemple celle qui sera projetée au Diago, donc Des Idiots et des Anges. Avec,
ça, ce sera la semaine prochaine.
Donc on en parlera éventuellement. Tu en parleras la semaine prochaine, j'imagine.
Je pense que
Martin.
Oui, au moins je ferai un gros topo sur Plimpton. Voilà,
t'avais pas déjà fait ça, non?
Peut-être au moment de la sortie Des Idiots et des Anges. Ouais. Moi, je sais que j'en avais parlé dans cette émission. Donc voilà, vous avez de quoi faire hein, cette semaine.
Effectivement. Eh bien, que rajouter de plus, si ce n'est qu'aujourd'hui sort 2012, hein, sort l'imaginaire du docteur Parnassus aussi.
Terry Gilliam.
Et puis il y a à l'origine, enfin voilà, il y a Trésor aussi, on n'en a pas parlé, film de François Dupeyron. Moi j'adore François Dupeyron, mais il semblerait que son... Bon, il a repris le film de Claude Berry qui est mort, qui n'a pas pu terminer son film, donc c'est pas vraiment son film. Enfin, bon. Donc voilà, moi je ne suis pas allé le voir, personne n'est allé le voir. Donc d'accord.
Voilà, donc plein de choses à faire cette semaine, à voir dans les salles, à découvrir sur les écrans. Voilà.
Et on se retrouve donc la semaine prochaine sur Divergence FM. Alors, à noter que on ne m'a pas communiqué l'heure de la rediffusion. D'habitude, on est rediffusé le mercredi de 18h à 19h, mais ce soir, il y a les apéros radiophoniques dans le cadre de Montpellier à 100%. Donc, théoriquement, ce sera ce samedi. Voilà, enfin, si vos amis nous ont pas écoutés, veulent nous écouter, vous leur dites branchez-vous le samedi après-midi vers 15h, 15h30, ça devrait le faire. Voilà, à la fin du générique, on va écouter un extrait du film Après vous de Pier Salvadori, parce que je suis un grand adepte de ses comédies et que je trouve que ça passe bien à la radio. Sinon, on remercie Julia et puis Ellie qui l'a secondé, enfin qui a fait la seconde partie de cette émission. Voilà.
À la semaine prochaine.
Salut!
Peur d'être seule, je déteste ça.
Mais il vaut mieux être seule que mal accompagnée.
Mais c'est pas vrai. Moi, je préfère être mal accompagnée qu'être seule. Je trouve ça con, ces dictons. Excusez-moi, vous êtes très gentille.
Blanche, c'est vrai, c'est tentant d'y croire, de pardonner, mais demain, vous le regarderez comment? Et chaque fois qu'il vous dira « je vais acheter des cigarettes », vous vous direz « est-ce qu'il n'est pas en train de faire l'amour sous un Porsche ou dans un hôtel ?» Ou dans une voiture.
Bon, ça va.
Excusez-moi. Je suis sûr que vous retrouverez quelqu'un.
Mais moi aussi, j'en suis sûre. Mais lui, je l'aimais, j'étais amoureuse, vous comprenez? Si vous m'aviez pas acheté ces plantes vertes, je serais en train d'essayer ma robe. C'est une petite robe bleue, j'avais fait refaire l'ourlet.
Cinérama.
Je suis désolée.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.